Les Racines du Ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Philippe Palares. Aujourd'hui, je reçois Cyril Javary pour parler du Yiking, une sagesse chinoise. Cyril Javary, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sinologue, écrivain, conférencier, expert et consultant en culture chinoise ancienne et moderne. Vous avez publié nombreux ouvrages, et une quinzaine je crois, sur différents aspects de la culture chinoise et notamment, et c'est pour ça que nous vous invitons aujourd'hui, vous venez de rééditer avec une couverture souple votre traduction du Yiking, le livre des changements chez Albin Michel. Alors déjà une toute première question, je sais que je prononce mal, je dis Yiking, alors que j'ai vu que vous l'écrivez A-Y-I plus loin J-I-N-G, donc Yi-Ying. Alors dites-nous déjà une petite explication sur le mot.
En chinois, on l'appelle Yi-Jing. Jing, ça veut dire classique. Yi, ça veut dire changement. Mais il se trouve que les Occidentaux ont abordé la Chine par le sud et qu'au sud, le son Jing se prononce K. Et que donc c'est là qu'on a pris l'habitude de dire Yiking et qu'on continuera en France à dire Yiking.
Bon, c'est pas grave, si vous me pardonnerez si je dis Yiking, c'est un livre que je connais depuis longtemps et j'aurais du mal à changer de nom
bien
en cours
sûr,
de route.
Mais, tout le
mais
monde...
par contre, vous pouvez l'appeler de manière beaucoup plus juste Yiying, alors vous dites
Yijing.
Yijing.
Oui, cela dit, en Chine, tous les livres fondateurs ont toujours deux noms. Par exemple, dans l'Occident chrétien, le livre fondateur, c'est le Nouveau Testament, mais tout le monde dit l'Évangile. Et en Chine, le nom officiel du livre des changements, c'est Yijing, mais tous les Chinois l'appellent Zhou Yi. Le livre des changements de la dynastie des Zhou, la dynastie qui a régné au cours du dernier millénaire avant notre ère, dynastie pendant laquelle il a été conçu, peaufiné, mis en place et finalement
définitivement codifié.
Arrêté. Mm-hmm.
Arrêté, et c'est toujours ce texte-là que nous lisons aujourd'hui.
C'est toujours ce texte-là.
Redites-moi l'époque, j'ai pas bien saisi.
Tout le premier, de moins 1000 à moins 200.
D'accord, donc c'est au cours de sa durée,
ah oui,
très longtemps,
sûr,
c'est un texte qui s'est établi,
c'est un texte...
donc même avant l'existence présumée de Confucius.
Oui, Confucius vivait au 5e siècle de notre ère, et vraisemblablement, il n'a pas connu le texte que nous avons, que nous avons maintenant.
Ça lui est antérieur et postérieur, d'une certaine manière.
Oui, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque des Han, donc moins 200, plus 200, où toute la... culture chinoise a été codifiée. À ce moment-là, on a attribué à Confucius la totalité des commentaires canoniques.
D'accord.
Bon, il ne pouvait rien dire, il était mort 400 ans avant, donc voilà. Mais ça voulait dire que les tenants de l'école confucéenne voulaient dire par là que la pratique du Yiking était le meilleur moyen d'atteindre les buts d'harmonie que leur maître proposait à la Chine et continue de proposer à la Chine.
Alors c'est un livre, pour ceux qui le connaissent un petit peu et puis pour ceux qui ne le connaissent pas, ils vont le découvrir. C'est un livre qui est composé de 64 hexagrammes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un hexagramme ?
Un hexagramme, c'est un mot qui a été inventé par les premiers traducteurs. Ça veut dire simplement figure formée de 6 signes. Hexa, 6, gramme, signe. En fait, c'est une représentation abstraite d'une constellation énergétique à un moment donné. C'est un empilement de traits continus ou redoublés qui représentent les forces qu'on appellera par la suite yin et yang et qui forment une configuration, comme une configuration stellaire. Et selon cet agencement, il s'en dégage une situation type. Ces situations types ont chacune un nom. Ce sont des noms très simples, ce sont des noms de la vie de tous les jours et surtout ce sont des verbes et non pas des substantifs. Donc il y en a qui s'appellent avancer, il y en a qui s'appellent reculer, il y en a qui s'appellent augmenter, il y en a qui s'appellent taper du poing sur la table, il y en a qui s'appellent organiser les choses, je traduis un tout petit peu les mots chinois. Et donc ces situations types, il y a une stratégie type qui correspond à l'agencement yin-yang qui les caractérise. Et donc c'est en cela que c'est un manuel d'aide à la prise de décision. Et en fait, il fonctionne comme un vieil oncle chinois quand on ne sait pas quoi faire, qu'on est un peu, qu'on hésite sur une décision à prendre. Ben, on va le voir, on lui dit écoute, oncle Lee, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Et oncle Lee, qu'en a vu d'autres, depuis 3000 ans, on pensait, il dit écoute, mon petit, te connaissant, c'est-à-dire sachant comment est organisée l'énergie en toi aujourd'hui face à ce problème, te connaissant, si j'étais à ta place, je ferais comme ça. Mais oncle Lee termine toujours ses conseils par « Mais de toute façon, c'est toi qui décides. » Parce que le hiking, c'est simplement, c'est quelque chose qui fonctionne comme une prise de pouls, comme une radiographie de l'organisation de l'énergie en une personne, à un moment donné, face à un problème donné. Analysant cette organisation énergétique d'une personne, il propose la stratégie optimale. Mais la liberté de la personne reste entière, elle suit ou elle ne suit pas cette stratégie. Cela dit, une fois j'interviewais Elie Imbert, l'ancien qui a été secrétaire Jungien, de la Fédération Jungienne, qui avait quand même 35 ans de hiking derrière lui, donc on écoute des gens comme ça. Et il me disait, on est tellement impressionné par la pertinence des conseils du hiking qu'un jour on lui dit, zut, je ne ferai pas ce que tu me conseilles de faire, na. Et il ajoutait avec son fin sourire, on fait tout ça une fois dans sa vie, rarement deux.
Lélie Anvar, bonjour.
Bonjour. Bonjour. Oui, vous avez parlé des hexagrammes et dans votre introduction, vous montrez qu'il y a quand même un lien organique très profond entre ces hexagrammes et le système des idéogrammes chinois. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Parce que ce n'est pas exactement les idéogrammes, mais vous montrez que quand même c'est une perception du monde très particulière que cette perception idéogrammatique du monde, et que ça engage quelque chose d'autre dans le rapport au monde que ce que nous avons habituellement en Occident, parce que nous sommes dans des alphabets syllabiques et que donc nous ne percevons carrément pas le monde de la même façon.
Alors, il y a deux parties dans votre question. La première, c'est que effectivement, le yiking, la pensée chinoise dialectique du yin-yang et le système idéographique ont une origine commune. Ils ont une origine qui est la recherche des réponses des ancêtres, des fins, pour savoir s'ils approuvaient ou non les projets qu'on faisait. L'idéographie a amené les Chinois à avoir une extrême attention à la signification des lignes. C'est pourquoi ils ont conçu ce plan du monde avec des lignes continues ou redoublées, qui sont les hexagrammes. Et que donc, effectivement, les hexagrammes qui sont pour nous des dessins abstraits, il y a même un psychologue qui parlera d'archétypes à leur sujet, eh bien, pour les Chinois, ce sont exactement la même chose que des idéogrammes, c'est-à-dire des représentations d'idées. Et vous avez raison de dire que ça ne met pas en jeu la même perception, car nous avons l'habitude d'utiliser des mots écrits avec des signes qui n'ont pas de sens, les lettres ou les syllabes. Et que donc c'est pour nous, globalement, le cerveau gauche qui travaille au moment de la lecture. Alors que les idéogrammes ou les hexagrammes étant des dessins, c'est globalement le cerveau droit qui travaille. Et la grande différence, c'est que le cerveau gauche travaille en logique rigide, ce qu'on appelle en Occident la raison, alors que les idéogrammes et les hexagrammes travaillent en logique floue. Et on s'aperçoit de plus en plus que la logique floue est celle qui rend le mieux compte du vivant. Et c'est pourquoi le hiking fonctionne chez les personnes vivantes que nous sommes, et c'est pourquoi la médecine chinoise arrive à résoudre les problèmes systémiques des individus. Bien sûr, la médecine occidentale n'a pas son pareil pour les problèmes strictement mécaniques ou chimiques, mais quand il s'agit d'un quelque chose de global, la logique floue chinoise est beaucoup plus efficace. Et que donc, l'avantage de d'utiliser le yiking, c'est que ça nous ouvre, ça nous rajoute une corde à notre arc. Il ne s'agit pas de conversion, il ne s'agit pas de passer d'un mode de pensée à un autre, il s'agit de rajouter à notre mode de pensée que nous a enseigné Aristote et Descartes, un autre mode de pensée qui permet entre autres choses de voir en même temps une chose et son contraire. Et que c'est ça la grande force du mode de pensée chinois, c'est que Aristote nous a dit une chose ne peut pas être à la fois A et non A. Une phrase qui est très difficile à traduire en idéogramme. Et bien au contraire, le mode de pensée chinois continuellement fait jouer ensemble une chose et son contraire. Jadis, c'était la Grande Muraille. La Grande Muraille à la fois empêche la communication, mais en même temps, c'est une autoroute de montagne qui permet de transporter rapidement des troupes dans un terrain accidenté. Donc en même temps, elle empêche la communication, elle favorise la communication. Et le plus extraordinaire exemple de cette manière de penser une chose et son contraire à la fois, n'est-ce pas le système actuel en Chine ?
Est-ce qu'il n'y a pas aussi, et je ne sais pas si ça a un lien, c'est ce qui m'y fait penser, c'est l'idéogramme du yin et du yang. On voit qu'il y a du yang dans le yin et du yin dans le yang. Est-ce que cette pensée de l'interpénétration constante du yin et du yang sous-tend toute la philosophie du Yiking ou c'est encore une autre système de pensée ?
Vous avez raison, et ce n'est pas tout à fait exact. Donc on est bien dans le sujet.
Je m'attendais à une réponse de ce type.
Oui, bien sûr, j'ai longtemps pensé que de tous les peuples de France, c'était les Normands qui comprenaient le mieux la philosophie chinoise. Mais vous avez raison, sauf que ce dessin des deux bigrammes noir et blanc avec une goutte blanc dans le nord, une goutte noire dans le blanc, est un achèvement. C'est une des dernières créations de la réflexion autour du Yijing. Et que ce ne sont pas des gouttes, ce sont des graines. Et elles sont appelées à croître. Et qu'en fait, ce dessin est un stroboscope. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le voir comme un dessin abstrait, mais comme un dessin animé. Il faut s'imaginer qu'à chaque instant, la graine blanche est en train de grandir dans le noir et la graine noire est en train de grandir dans le blanc. Et qu'après, il suffira juste un accroissement delta pour que chlac, la forme se reprenne toujours en deux gouttes qui dansent l'une avec l'autre.
Mais c'est bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il
faut... Et c'est exactement...
On n'est pas dans une vision manichéenne.
Non seulement ça, mais on est toujours dans une vision dynamique.
Dynamique,
c'est-à-dire
voilà.
Que ça nous donne le rythme du changement. Le rythme du changement, c'est toujours lente maturation, brusque mutation.
Lélie Anvar.
Oui, justement, sur le yin et le yang, évidemment, c'était inévitable de trouver un texte, il y en a de nombreux dans la littérature philosophique chinoise. Là, j'ai choisi un texte qui est d'un philosophe taoïste. Vous en avez fait reproche avant, quand je vous en ai parlé. Mais néanmoins, il y a quand même une continuité de la pensée chinoise dans cette façon de concevoir le yin et le yang et leur harmonie comme étant finalement le modèle même de l'équilibre à atteindre, si je ne me trompe. En tout cas, c'est ce que dit ce texte. Et il dit aussi que, c'est de la philosophie taoïste, et il dit aussi que finalement, toute la dynamique de la vie doit tendre. Et le sage, c'est celui qui arrive à tendre vers cette harmonie entre le yin et le yang. Des souffles du ciel et de la terre, aucun n'est aussi grand que l'harmonie. Par l'harmonie, le yin et le yang s'accordent, le jour et la nuit se distinguent, et ainsi les êtres naissent à l'équinoxe du printemps et mûrissent à l'équinoxe d'automne. La naissance et la maturité dépendent des souffles harmonieux. C'est pourquoi le Tao du Saint est généreux mais ferme, sévère mais tempéré, souple mais droit, vigoureux mais bon. S'il est trop rigide, il se brise. S'il est trop souple, il s'enroule. Le Saint se tient tout juste entre la rigidité et la souplesse et atteint ainsi la racine du Tao. Qui accumule le yin s'engloutit. Qui accumule le yang s'envole. C'est seulement quand le yin et le yang s'unissent l'un à l'autre qu'on peut réaliser l'harmonie. Lorsqu'on se sert du cordeau comme mesure, on peut l'enrouler et le cacher. Si on le tire et l'allonge, il peut être droit et guider le regard. C'est le Saint qui l'incarne. N'est-ce pas précisément en tant que cordeau qu'il peut être long sans s'en mêler et court sans s'épuiser, droit sans être rigide, durable sans défaillir ? Mu par la bonté, on devient pusillanime. Or, la pusillanimité n'inspire pas le respect. Mu par la sévérité, on devient intolérant. Or, l'intolérance n'engendre pas l'harmonie. Mu par l'amour, on devient indulgent. Or, l'indulgence empêche le contrôle. Mu par le châtiment, on devient cruel. Or, la cruauté exclut l'affection.
Vous êtes sur France Culture dans les Racines du Ciel en compagnie ce matin de Cyril Javary qui nous parle du Yiking, une sagesse chinoise. Juste avant qu'on reprenne le cours de notre discussion, Cyril Javary, vous avez choisi de cette première musique. Dites-nous de quoi
C'est un concert qui a été écrit par le père Perdrini, qui était un jésuite qui était à la cour de Chine au XVIIe siècle. Et c'est donc c'est de la musique baroque de cette époque-là, européenne de cette époque-là, mais sinisée. Et c'est ce qui lui donnait cet aspect inhabituel, ce mélange de yin et de yang.
Et oui, on sait que les jésuites ont été en Chine, qu'ils ont joué un rôle important. Et puis, il y a eu la fameuse querelle avec Ritchie sur les rites chinois qui a fait que finalement, le christianisme n'a pas pu se développer. Même les chrétiens ont plutôt été chassés à cette époque-là.
Donc, enfin, les jésuites,
donc il y a eu une occasion manquée là, pour l'Église catholique. Alors, reprenons le cours de la conversation. Vous vouliez faire un commentaire par rapport au texte sur le yin et le yang qu'a lu Lélian Var.
Oui, c'est un très beau texte et c'est tout à fait de ça dont il s'agit. La seule difficulté, c'est que nous n'avons qu'un seul mot pour parler de l'harmonie. Les Chinois en ont deux. Il y en a un qui parle de l'harmonie du semblable et l'autre qui parle de l'harmonie du différent. Pour prendre une comparaison musicale, c'est le chant choral et le chant canon. Et que dans ce texte, c'est celui qui parle de l'harmonie du dissemblable. Et que nous avons l'habitude de voir l'harmonie comme l'équilibre, c'est-à-dire comme une égalité de part et d'autre. Alors que, par exemple, dans le cours de l'année, il n'y a que deux jours qui sont aussi, où la nuit est aussi longue que le jour. Le reste du temps, le rapport entre le jour et la nuit varie. Et toute situation dans la vie est toujours un rapport variable de yin et de yang. Et c'est donc il y a parfois plus de l'un, plus de l'autre. En ce moment, par exemple, on voit bien qu'il y a plus de froid que de chaud. Mais on voit bien aussi que la dynamique, c'est que le chaud monte, il va faire de plus en plus chaud. On est au début du printemps, on va arriver à l'été. Et c'est cette variation constante qui est fondamentale dans l'idée chinoise et que nous apprend le Yiking à concevoir, comme le disait le président Mao, qu'on ne peut pas soupçonner d'être un auteur New Age. Il disait « un se divise en deux ». C'était parce qu'il ne pouvait pas dire yin et yang, ça faisait vieux jeu. Mais c'est bien cette même idée chinoise que tout est toujours un rapport de deux situations. Et yin et yang, le premier sens de ces deux mots, c'est adret et ubak. Le côté de la montagne au soleil, le côté de la montagne à l'ombre, au nord. Et que toute montagne, quelle que soit sa taille, a toujours un adret et un ubak.
Après, on a plutôt traduit masculin, féminin.
Alors ça, c'est une grave sottise dont les Chinois sont responsables. Parce que yin et yang sont les emblèmes du changement. La meilleure définition de yin et yang est celle qui a été donnée par Wang Pi. Wang Pi, c'est le Rimbaud de la philosophie chinoise. C'est un philosophe qui, vers le 3e siècle de notre ère, a commenté tous les classiques chinois, dont le Yiking. Et après avoir écrit ses commentaires qui, 17 siècles après, valent toujours d'être lus, il est mort à 24 ans. Et il dit yin, c'est ce qui va devenir yang. Yang, c'est ce qui va devenir yin. Et là, on voit bien que yin et yang sont des vecteurs, sont des poteaux indicateurs. Or, vous en conviendrez, hommes et femmes sont parmi les catégories les plus fixes qui soient sur Terre. Donc, utiliser pour nommer les emblèmes du changement des catégories fixes, c'est être sûr de ne rien comprendre. Et vous... c'est, casser la dynamique yin-yang, pardon.
Non, mais vous dites, vous semblez dire quand même dans votre introduction que c'est d'ailleurs plus des dispositions, c'est-à-dire réception et action. C'est d'ailleurs, puisque vous dites que justement c'est le verbe qui prévaut dans le Yiking. Mais vous avez tendance à dire aussi que pendant longtemps vous avez cru qu'il fallait un équilibre parfait entre les deux et que finalement vous pensez que le Yiking va plutôt dans le sens de... D'une prévalence du yin, comme si il fallait quand même que le yin soit prévalent, si je vous ai bien lu.
Vous avez raison, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est d'abord, yin et yang sont des stratégies, ce sont des modes d'agir. L'un privilégie la force et la concentration, l'autre privilégie le temps. Mais les deux sont des stratégies. C'est pour ça qu'une fois qu'on a... il y a presque pire que homme et femme, c'est actif et passif. Le yin n'est pas passif, il est une manière d'agir. Ensuite, ce que vous dites, c'est exact, que pendant longtemps, j'ai cru que le Yi Qing était le grand livre du Yin et du Yang. Et puis, pour faire cette traduction, j'ai pris chacun des 984 mots du texte canonique. J'ai fait pour chacun une fiche pour voir partout où il apparaissait. C'est pour ça que ça a été des longues nuits de veille. Ça a été 10 ans de préparation quand même et 5 ans pour l'écrire. Et là, je me suis aperçu que 2 fois plus souvent, la stratégie Yin était conseillée. J'insiste, stratégie. Et cela pourquoi ? Parce que du fait que nous sommes vivants, chauds, mobiles, hommes comme femmes, nous sommes de façon innée du côté du yang. Et que donc la réponse yang primaire, immédiate, on me pousse, je pousse, on me frappe, je frappe. Il n'y a pas besoin du yiking pour ça, elle nous vient naturellement. Par contre, la réponse secondaire, réfléchie, yin, on me pousse, je recule. Qui est, comme vous remarquez, le principe du judo. Judo, c'est la prononciation japonaise d'un mot chinois, jo tao, la voie de la souplesse. C'est un art martial yin.
Ou l'aïkido, on utilise l'aïkido, la force de l'autre.
Exactement, exactement. Et que donc, c'est pour ça. Et ça, on a besoin de l'apprendre.
Oui, c'est un chemin
et
spirituel.
Et de le réapprendre constamment.
C'est un chemin de
sagesse. Et c'est pour ça que le Yi Qing nous le conseille 2 fois plus souvent que la stratégie Yang. Ce qui, en retour, fait que quand le Yi Qing nous conseille la stratégie Yang, c'est qu'on tardait à se bouger.
Alors, je voudrais quand même revenir et vous titiller un peu plus sur le féminin et le masculin. Parce que moi, je ne suis pas totalement convaincu par ce que vous dites. Je trouve quand même qu'il y a des archétypes. L'archétype du masculin et l'archétype du féminin sont 2 grands archétypes qu'on voit partout dans la nature, dans l'être humain, etc. Et ils correspondent bien aux définitions, aux symboles, je dirais, de ce que signifie le yin et le yang. C'est très proche quand même comme type d'archétype.
Je ne vois pas comment. Excusez ce silence, j'étais estomaqué. Je ne vois pas comment.
Mais parce qu'on vous parle d'accueil, de réceptivité, d'attente, etc. Et quand d'un autre côté, on vous parle d'action, de force, truc, on voit qu'il y a une dynamique qui correspond plus au type masculin et l'autre au type féminin, pris comme des archétypes.
Oui, c'est ça. C'est bien ce que j'avais compris. Non, ce n'est pas ça. Parce que justement...
Mais on comprend pourquoi l'association s'est faite. Elle paraît évidente. Alors, c'est peut-être une fausse évidence.
Non, ce n'est pas une fausse évidence. C'est une association totalement réductrice qui, effectivement, est née de l'insondable malchauvinisme chinois. Mais c'est que on ne peut pas mettre dans le même tiroir une attitude et une essence. Et que donc... les attitudes, une attitude de une action centrifuge ou une action centripète, donc un élan créatif ou un élan. C'est pour ça, par exemple, que j'ai appelé les 2 premiers hexagrammes élan créatif, élan réceptif.
Mais attendez, on parle de la même chose. Moi, je parle d'attitude.
Mais
quand je parle du masculin et du féminin, je parle de l'anima et de l'animus au sens jungien.
C'est-à-dire,
en tant qu'homme, j'ai du féminin et je ne suis pas que avec un caractéristique de type animus masculine. Donc, on a tous du masculin. Masculin et du féminin, je ne parle pas du genre des sexes figés dans des essences.
Nous sommes d'accord, mais moi non plus. Ce que je veux dire, c'est que pour des raisons qui tiennent dans chaque culture à l'éducation, à la culture, à l'environnement, les stratégies yang, les hommes seront plus facilement réceptifs aux stratégies yang. Et les femmes, généralement, plus facilement réceptives aux stratégies yin. Réceptives au sens des cordes vibrantes. Vous avez 2 cordes, vous en sonnez une, l'autre va se mettre à vibrer. Cela dit, nous sommes effectivement, nous sommes à tout moment de la journée, de l'action, de la vie, etc., en train de faire du yin et du yang. Parce qu'il y a des moments où on s'agite, il y a des moments où on dort. Et que ça n'a rien à voir, effectivement. Mais ce qui est, à mon avis, se crée la divergence, c'est quand on associe des stratégies, c'est-à-dire des manières d'agir, avec des archétypes qui sont des manières d'être.
Alors, on ne va pas prolonger trop longtemps la discussion là-dessus, parce qu'on peut y passer toute l'émission. J'aimerais bien, Lélie Anvar, si vous voulez, qu'on lise un extrait du Yi Qing pour voir un peu comment ce texte se présente, avec donc un hexagramme, et puis après un commentaire de l'hexagramme, juste un mot sur la structure, et après Lélie Anvar va nous faire la lecture. Donc, c'est bien cela, Cyril Gévary, il y a bien... Un hexagramme avec un texte court et ensuite un commentaire.
Oui.
dont vous expliquez aussi finalement la composition idéogrammatique de ces hexagrammes, donc vous expliquez le sens de chacun des signes qui sont dans cet hexagramme. Et bon, c'est un peu, évidemment, c'est un peu complexe parce qu'il y a différentes significations selon justement la case où on est, si j'ose dire, hein, 9 en 1 ou 6 en 2, etc. En tout cas, j'ai choisi l'hexagramme 30. Je ne sais pas si c'est par tropisme personnel, mais en tout cas, c'est parce que ça signifie la lumière. En fait, c'est à la fois filet d'oiseleur et lumière. Ce qui me frappe d'ailleurs, c'est à quel point ce livre est concret. C'est-à-dire, il part toujours des choses extraordinairement concrètes pour éventuellement aboutir à des choses plus abstraites et plus spirituelles, mais ça part toujours de choses extrêmement concrètes.
Toute la pensée chinoise s'enracine dans le modèle naturel.
Voilà. Et donc, vous donnez donc le sens de ces hexagrammes. Je vais d'abord lire ça. Ça fait comme des petits poèmes, en quelque sorte, ces sens comme ça, qui jaillissent. Et puis ensuite, le commentaire. Donc, filet d'oiseleur, lumière. Lumière du soleil couchant. Ne pas tambouriner les jarres d'argile et chanter. Pousser des gémissements comme les grands vieillards. Fermeture. Jaillir. En revenir. Brûler. Mourir. Renoncer, comme verser des flots de larmes, comme être affligé et pousser des gémissements. Ouverture. Donc ça fait partie des mots qui donnent une traduction de l'hexagramme. Et voici le commentaire, ou en tout cas une partie du commentaire. Filet d'oiseleur ou lumière est en même temps nécessité d'y voir clair et danger d'éblouissement. Cette dualité manifeste dans la structure de la figure par la répétition du même trigramme est déjà présente dans le nom de l'hexagramme. L'idéogramme par lequel il a finalement été désigné associe en effet un yak et un oiseau, exprimant ainsi la contradiction d'ensemble de la situation, attachement à la terre et désir de s'envoler. Il était nommé à l'origine par un idéogramme montrant les filets utilisés pour abattre les oiseaux au sol et les capturer. Par la suite, en même temps que l'usage des trigrammes se développait, l'image de l'oiseau en général et celle du faisan au plumage splendide en particulier a été remplacée par celle de la lumière. Dans cette figure où le yang est majoritaire, voire excessif, l'importance d'une stratégie yin est soulignée par la présence de traits souples aux deux places centrales. Comme dans l'hexagramme élan réceptif, ces deux niveaux sont les seuls à être qualifiés par des formules mantiques favorables. D'autres singularités rapprochent ces deux hexagrammes. Un animal femelle comme emblème, la couleur jaune comme qualité centrale, les quatre directions de la terre comme horizon. En revanche, les quatre traits yang de filet d'oiseleur ne décrivent qu'attitude confuse, hésitation entre insouciance et défaitisme, embrasement suivi d'abandon, remise en ordre brutale. Trop de lumière peut éblouir, comme trop de puissance peut enivrer.
Alors le commentaire du commentaire.
Ce qui vient d'être lu en deuxième partie, c'est mon explication de l'hexagramme. C'est pas du tout le texte.
C'est votre commentaire.
Parce que là, j'ai pas sous les yeux le livre, donc je sais pas.
Non, le texte chinois, c'est.
Après, il y a un commentaire officiel, d'accord.
Oui, qui n'est pas traduit dans cet ouvrage, qui sera traduit dans quelques années. Effectivement.
Mais vous vous êtes inspiré quand même des commentaires que vous avez lus. C'est un commentaire.
Bien entendu. Mais je ne les ai pas lus tous. Vous savez, l'empereur Kangxi a fait ranger sa bibliothèque et il a trouvé 14 718 livres portant le mot Yi Qing dans le titre. Effectivement, et cette idée du filet d'oiseleur, si les Grecs avaient écrit cet hexagramme, ils l'auraient appelé le complexe d'Icare. C'est l'idée que celui qui monte se brûle les ailes. D'où, quand l'oiseau est dans le fourré, il est tranquille. S'il s'élève, il est attrapé au filet. Et que donc, cet hexagramme, quand on l'obtient en réponse, il veut dire attention. Plus que lumière, il s'agit de lucidité. Qui dit, regarde bien, tu es en train de te faire éblouir par quelque chose. Aie bien les pieds sur terre. C'est pour ça qu'on donne comme conseil général au jugement que vous avez omis de lire, apprivoiser la vache. Ouverture. Apprivoiser. Déjà, ça ne se fait pas en 5 minutes. C'est prendre du temps, c'est une stratégie yin. La vache, il en faut beaucoup pour l'énerver. C'est également un animal très yin. Donc, ça veut dire simplement, développe le yin, calme-toi, parce que tu es en train de te faire éblouir. Et ouverture, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement le flux, ça ouvre la situation, ça, ou ça se ferme. J'ai trouvé ces deux termes un jour... Je les ai vus écrits dans le ciel, Je suis passé Saint-Paul sur le chemin de Damas. J'étais dans une autoroute et j'ai vu un portique où il y avait marqué A6 fluide, A8 bouchon. C'est exactement ça que dit Li Qing. Quand il dit, quand on agit de telle façon, ça coince, fermeture. Quand on agit de telle façon, ça ouvre, ça défère la situation. C'est très technique, ce sont des termes techniques. Et donc, il ne s'agit pas plus que de la lumière, il s'agit d'être lucide. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'il y a un autre hexagramme qui s'appelle « Apprendre à franchir les ravins » et qui traite du vertige, de la peur du noir, et dans lequel il y a une des phrases les plus belles du Li Qing qui est « Agir amène à se surpasser ». Et que les deux sont en rapport, celui que je cite là et celui que dont vous avez lu le texte, car toujours le mode de pensée yin-yang, là où nous avons une chose, les Chinois en ont deux. Nous avons un vertige, c'est le vertige, la peur du vide. Les Chinois ont remarqué qu'il y a deux vertiges. Il y a la peur du noir, du vide, c'est le vertige yin vers le bas, et le vertige yang, le complexe d'Icare, se brûler les ailes au soleil. Et que donc il y a deux puits sans fin. Après tout, il y a bien des racines au ciel.
Merci. Vous êtes sur France Culture dans Les Racines du Ciel. Nous poursuivons notre conversation avec Cyril Javary sur le Li Qing. Mais avant, une petite question à nouveau sur la musique. Je crois que c'est une musique très particulière. Racontez-nous, Cyril Javary, de quoi il s'agit.
Eh bien, en 1974, je crois, on a découvert dans la tombe du marquis de Zheng, qui vivait au 4e siècle avant notre ère, un carillon de 64 encore, cloches de bronze. Et le bronze est très solide. Et donc, on a nettoyé ces cloches et on les a remises sur un bâti de bois comme elles étaient. Et on a joué avec. Et ce qu'on a entendu là, ce sont des mélodies qui ont plus de 2000 ans, qui sont jouées sur un instrument qui a 25 siècles.
C'est extraordinaire.
C'est la permanence chinoise.
Alors, j'aimerais qu'on en vienne maintenant à la question de l'usage du Li Qing. On a un petit peu compris la philosophie qui sous-tend ce livre. Vous nous avez dit tout à l'heure, c'est un manuel un peu de prise de décision. Alors, comment ça se passe concrètement? Comment on utilise cet ouvrage, notamment votre ouvrage que vous venez de traduire là en français? Concrètement, comment se passe ce tirage, cette recherche d'un conseil de l'oncle, comment vous l'appelez, l'oncle Li, voilà, l'oncle Li. Et au fond, quel est l'objectif qu'on recherche en utilisant Li Qing?
Je saisis au vol un mot que vous avez employé. Effectivement, quand on demande une réponse au Li Qing, on emploie en français le mot tirage, le verbe tirer. C'est le résultat qui continue de faire son effet d'enchaîner le Li Qing dans le vocabulaire divinatoire. Parce que on tire à la courte paille, on tire une carte au tarot, et que donc en employant le verbe tirer, qui a été utilisé pour traduire l'utilisation du Li Qing, les premiers traducteurs l'ont enfermé dans ce domaine divinatoire, et que donc inconsciemment on a cette démission de la raison.
Mais attendez, La divination n'est pas uniquement prédire l'avenir. Là, au sens des anciens, les Grecs, ils pouvaient faire de la divination pour savoir s'il était opportun ou pas de mener une bataille. Et donc le mot divination au sens large peut inclure le Yi-King.
Oui et non. Mais surtout, je voudrais vous dire comment on dit en chinois tirer le Yi-King. On dit Suan Gua. Gua, c'est le nom des hexagrammes, c'est les figures du Yi-King. Suan, ça veut dire calculer. C'est-à-dire que là où nous employons un verbe qui évoque une démission de la raison, les Chinois emploient au contraire un verbe qui est pour nous le symbole même de la raison, le calcul. Alors comment ça se passe? Eh bien, quand on, il y a des fois, en fait, il y a deux usages du Yi-King. Il est écrit dans un des commentaires officiels, au moment du repos, l'être accompli contemple le Yi-King. Au moment de l'action, l'être accompli interroge le Yi-King. Alors l'être accompli, c'est l'énervant du Yi-King, c'est celui qui fait toujours ce qu'il faut au moment où il faut. Enfin, on essaye de l'imiter, mais... Pff. Au moment de repos, il contemple le Yi-King, c'est-à-dire ces moments bénis, trop rares, où on n'est pas pris
tout va bien.
Par le quotidien. Ouais. Et où donc on a le temps de réfléchir. Là, on regarde l'ensemble des 64 situations types, et surtout l'infinité des connexions qu'il y a entre elles. C'est pas pour rien qu'un petit livre d'introduction au Yi-King que j'ai fait, je l'ai appelé « Les rouages du Yi-King ». Et donc là, on arrive à on s'enrichit en faisant des rapports inédits entre des situations connues. Et puis quand on est pris dans l'action et qu'on ne sait pas quoi faire, à ce moment-là, on interroge le Yi-King. Alors qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on écrit sa question de façon à ce qu'elle soit bien formalisée. Et on l'écrit comment? On l'écrit avec un verbe d'action dont on est le sujet. Comme ça, on est sûr de rester dans le domaine du raisonnable. Une fois qu'on a écrit sa question, on opère des manipulations aléatoires qui permettent de déterminer laquelle des 64 situations types est celle qui correspond le mieux à la situation particulière dans laquelle on est. À ce moment-là, on détermine quelle est cette situation et on lit les textes et on lit les conseils qui sont donnés.
Alors la méthode, les méthodes utilisées entre la question et la lecture du texte pour déterminer l'hexagramme, quelles sont-elles?
Alors c'est là où le bas blesse, parce que c'est là où ça coince. Parce que sinon, tant qu'on avait parlé jusqu'ici du Yi-King, ça avait l'air relativement sérieux, etc. Et voilà, Tipa, que pour déterminer quelle est la situation type, on partage des bâtonnets au hasard, on jette des pièces. On ne tire rien, vous voyez, en passant. Et que donc on fait marcher l'aléatoire. Et chez nous, l'aléatoire est un cache-misère jeté sur notre ignorance, est une lâcheté, c'est un déni de raison. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça que le pensent les Chinois. Et cela, c'est Confucius qui l'explique. Un jour, Confucius se promenait avec ses disciples et il voit un oiseau qui était sur une pierre qui, à son passage, s'élève, tourne dans le ciel et vient se poser sur la marécageuse d'un puits. Et à ce moment-là, Confucius se tourne vers ses disciples et il dit « Ah, le loriot jaune ! Si seulement l'être humain pouvait être aussi sage !» Bon, alors ça, c'est du Confucius pur jus, ça demande un peu d'explication. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'oiseau étant de toutes les créatures terrestres, celle qui est le moins, de toutes les créatures vivantes, celle qui est le moins soumise aux contingences terrestres, il peut se poser n'importe où il veut. Et que donc, puisqu'il peut se poser n'importe où il veut, il se pose toujours là où il doit. C'est-à-dire là où il est le plus en rapport avec l'ensemble de la situation. Par exemple, quand vous entrez dans une salle de spectacle et que vous êtes le premier, vous pouvez vous asseoir absolument où vous voulez. Où est-ce que vous vous mettez à ce moment-là? Ben, chacun se met là où il se sent le mieux. Les frileux près du radiateur, les myopes devant l'écran, les anxieux près de la sortie, les amoureux au fond. Ok. Si vous contemplez ça de la cabine de projection, vous vous dites les gens se placent au hasard. Autrement dit, le hasard, qui est pour nous ce qui n'est relié à rien, parce que relié à aucune causalité, est au contraire pour les Chinois la forme que prend le flux du Tao quand on lui laisse libre cours. Et c'est pourquoi dans l'esprit confucéen, le recours au hasard est l'acte moral par excellence. Parce que c'est ce qui nous remet en accord avec ce courant vital.
Est-ce que vous seriez d'accord pour dire, traduire ça en langage occidental, que c'est notre inconscient qui va nous guider dans le tirage entre guillemets aléatoire?
Le jetage aléatoire des
pièces. Le jetage, oui, j'arrive pas à me sortir de mon vocabulaire formaté.
Ben, nous le disons tous, et moi-même, depuis 35 ans que j'étudie le Yi-King, j'emploie encore ce mot.
Alors, est-ce qu'on pourrait dire que c'est notre inconscient, notre subconscient, quel que soit le nom qu'on donne à une partie de nous-mêmes, qui n'est pas rationnelle, mais qui existe quand même, et qui peut être plus profonde?
Je ne pense pas. Je ne pense pas, je pense que ce n'est pas suffisant et que c'est encore se donner trop d'importance. Et que, si vous voulez, quand moi-même j'utilise des pièces chinoises qui n'ont ni pile ni face, je sais que sur un des côtés il y a le nom d'un empereur et sur un autre côté il y a le nom d'une province, mais ça est écrit en chinois. Et donc, quand je les prête à quelqu'un pour réaliser un tirage, je doute que l'inconscient de cette personne connaisse le chinois. Et de toute façon, est-ce que vous avez déjà essayé de faire tomber volontairement une pièce sur pile ou sur face? Et que donc, c'est donner beaucoup d'importance à notre inconscient, avec toujours ce désir encore, toujours, de que je suis maître de moi comme de l'univers, je maîtrise entièrement la situation. Alors qu'il y a au contraire dans cette acceptation du Yi Qing, cette recherche, où là-dessus les taoïstes se retrouvaient d'ailleurs, de rentrer dans une harmonique qui à la fois nous dépasse et nous porte et nous permet de jouer de la meilleure manière notre rôle dans la grande symphonie du vivant.
Alors qu'est-ce qui va impulser le choix dans cette dimension aléatoire? Qu'est-ce qui va impulser le choix du yin ou du yang qui va faire que la réponse sera bonne? Si c'est pas, ça ne vient pas de nous, ça vient de quoi?
Alors, il y a une procédure qui est décrite dans tous les livres de Yi Qing, selon le côté où tombent les pièces, selon le nombre de baguettes qu'on a partagées, qui permettent de déterminer non seulement si chacun des six niveaux de l'hexagramme est rempli par une force yin ou yang, mais aussi si pour la durée de temps définie par la question, elle va rester yin ou si elle est sur le point de se transformer en yang, elle va rester yang ou si elle est sur le point de se transformer. C'est exactement comme quand vous roulez en voiture. Si vous roulez sur une route droite, il n'y a pas grande difficulté, ce n'est pas très intéressant. Ce n'est pas très difficile. Mais par contre, si vous passez une épingle à cheveux, là, il faut rétrograder, tourner, etc. Eh bien, dans la vie, il y a des moments où ça roule, c'est tranquille, il n'y a pas de conseils à donner. Puis il y a des fois où il faut négocier des sacrées épingles à cheveux, et là, il faut faire gaffe. C'est pourquoi, dans ces cas-là, le Yi Qing permet de nous donner des conseils plus précis selon le moment où on en est du déroulement général de la situation.
Non, j'ai bien compris, mais ma question, c'était, mais si ce n'est pas nous consciemment ou nous inconsciemment, par quelque chose, encore une fois, de connaissance inconsciente du réel, qui impulsons le choix de ce qui va se passer. Quelle est la force qui, dans l'univers, fait que le choix va être bon et que ça ne va pas être le hasard total, si vous voulez?
Je comprends très bien. Mais je n'ai pas voulu répondre parce que je ne suis incapable de répondre. Parce que personne ne peut répondre
à cette
question.
Ça veut dire qu'il y a du sens et pas du hasard.
Ça veut dire qu'il y a du sens qui nous paraît être aléatoire, mais que surtout, cela veut dire deux choses. Ça veut dire d'une part que là où nous, qui avons été formés par Aristote et par Descartes, nous exigeons une preuve par la raison. Alors que les Chinois se suffisent d'une preuve par l'efficacité.
Ça, ils disent ça marche. Ça marche. Parce que ça marche, on ne cherche pas d'explication.
Ah ben, absolument. Et ça donne des choses tout à fait incroyables, comme l'acupuncture, avouée entre nous. Penser guérir des gens en leur enfonçant des bouts de métal dans la peau, c'est un peu cinglé comme idée, mais ça marche. Eh bien, tant mieux. Et que donc, c'est la même chose. Et que si le Yi Qing ne fonctionnait pas, il y a longtemps que les Chinois l'auraient abandonné. Si vous voulez, la pratique, le Yi Qing paraît aléatoire tant qu'on ne l'a pas étudié, utilisé. Et par contre, quand on l'a utilisé, on est étonné par la pertinence de ces réponses. Et à ce moment-là, on cesse de se poser cette question.
Alors, on va faire peut-être une dernière lecture pour terminer l'entretien.
Oui, alors,
un autre texte.
Absolument. C'est l'hexagramme 1. Et la raison de ce choix est que nous sommes... c'est l'année du dragon qui vient de commencer, et que donc cet hexagramme se repose sur le dragon pour totem. Alors c'est pareil, hein, tout à l'heure je n'ai lu que des extraits à la fois des traductions et du commentaire parce que je n'ai pas le temps de faire plus long. Vous m'en excuserez, Cyril Jabari, et nos auditeurs pourront se référer au livre s'ils veulent avoir l'intégralité des traductions et des commentaires. Donc l'hexagramme 1 se nomme Qian. Élan créatif, fondamentalement favorisant, ténacité profitable, dragon tapis dans l'onde, ne pas agir, dragon visible dans le champ, profitable d'aller voir quelqu'un d'envergure. Le chef accompli jusqu'à la fin du jour est fermement ferme, au soir il est encore tout vigilant, danger, absence de faute, envol possible dans le gouffre, absence de faute, dragon volant dans le ciel, profitable d'aller voir quelqu'un d'envergure. Dragon hautain, il y a regret. Tous les neuf à l'œuvre, apparition d'un vol de dragon. Pas un n'est en tête d'ouverture. Le ciel circule et agit avec force. Ainsi, l'être accompli, en se renforçant lui-même, n'est jamais à bout de souffle. Et voici le commentaire. Élan créatif est le plein déploiement des qualités yang. Force d'activation, vigueur, dynamisme, puissante capacité à faire surgir le nouveau et à promouvoir sa réalisation. Seul hexagramme uniquement constitué des traits yang, élan créatif représente un souffle puissant d'émergence qui se manifeste dans une propension à faire converger la force et à enclencher les processus. L'aptitude à l'animation et à l'inventivité s'exprime ici par une qualité essentielle, la fermeté, qui trouve son efficace quand elle entre en résonance avec la souplesse du yin. Prendre l'initiative ne signifie pas se lancer dans l'activisme, mais maintenir son activité en se gardant autant de l'autoritarisme que du manque d'endurance. Projection constante vers l'extérieur, capacité à aller sans cesse de l'avant, la manière yang d'agir est d'autant plus exposée au risque d'épuisement. Elle n'atteint son efficience que lorsqu'on prévient la dépense d'énergie par l'investissement dans une orientation claire et un renouvellement continuel de la disposition intérieure.
Nous terminons cette émission avec Cyril Javary sur la sagesse chinoise du Yi Qing par l'agenda culturel. Et comme une fois par mois, nous le faisons depuis quelque temps, cet agenda est préparé et fait par Marie Dalquier, la préparatrice de l'émission. Bonjour Marie.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous avez mijoté?
Alors j'ai mijoté un site internet, le site de l'association johi.org, donc D-J-O-H-I.org. ORG. C'est une association, vous êtes d'ailleurs le président Cyril Javary. Alors c'est un site en fait qui est vu comme une vitrine intellectuelle en fait et non comme certaines vitrines de jeux mercantiles qu'on peut trouver justement, on l'a compris, hein, qu'il pouvait y avoir confusion avec le Yi Qing. Et c'est un site en fait qui pallie justement au fait que le Yi Qing est mal vu à l'université. Il est même difficile de faire des thèses sur le Yi Qing dans les universités de sinologie française. Et du coup, en fait, c'est un site qui permet à des gens qui réfléchissent autour de ce livre et qui ont envie vraiment d'avancer, d'utiliser ce livre dans leur vie, eh bien, de pouvoir échanger, de pouvoir se rencontrer. Alors, c'est une association de bénévoles. Il y a donc une possibilité d'adhérer et un blog qui permet donc l'échange et aussi la compréhension d'avancer entre connaissances et expériences. Alors ces différents réseaux, il y en a de Montpellier, de Bordeaux, de Lyon, Paris, Nantes, Bruxelles, Lausanne en Suisse. On pourrait se demander, mais finalement, pourquoi apprendre à plusieurs? Et c'est là que ce site prend tout son sens. C'est parce qu'en fait, on l'a vu au cours de cette émission, c'est assez complexe quand même de comprendre comment fonctionne la Chine et comment fonctionne cette pensée chinoise. Et bien que finalement, apprendre à plusieurs le chinois, c'est beaucoup plus facile. Donc c'est une association qui n'est pas pyramidale, donc c'est vraiment intéressant parce que l'échange de connaissances se fait de manière horizontale. C'est vraiment un site qui est basé sur l'égalité des connaissances. Alors elle permet des rencontres, il y a des bonnes adresses, j'ai vu de médecine chinoise, de cours de chinois, de librairies. Et puis il y a aussi des journées qui sont organisées. Alors il y a une grande journée qui est organisée le 18 mars au Forum 104, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Donc c'est 104 rue de Vaugirard dans le 6e à Paris et c'est donc une journée basée sur, qui est autour de la culture chinoise avec Che Bingqiu. Che Bingqiu, en fait, qui est un architecte paysagiste et puis qui va parler de l'art du jardin en Chine, et de Vincent Gossart. Alors, Vincent Gossart, c'est un historien spécialiste du taoïsme et il expliquera ce jour-là comment les taoïstes, on l'a vu aussi un petit peu au cours de cette émission, se sont appropriés finalement le livre du Yiqing. Et puis alors, c'est un petit peu différent, mais on s'en rapproche. Cyril Javary, vous organisez aussi un voyage assez exceptionnel sur la découverte de la haute gastronomie chinoise.
Ah oui, c'est bien ça, on va pouvoir aller déguster les mets chinois, c'est ça?
Oui, mais surtout, ce que je voudrais faire comprendre au travers de ce voyage, c'est que la Chine, qui depuis 150 ans, pour sortir de l'état de pauvreté dans lequel elle était, a copié tout ce qu'il y avait, essayé toutes les recettes, maintenant c'est fini. Elle a retrouvé sa face. Et donc maintenant, comme toute civilisation qui est sûre d'elle-même, elle est capable d'emprunter des choses à l'étranger et d'en faire des choses chinoises. Et donc ce que je voudrais surtout, c'est présenter la cuisine fusion.
C'est-à-dire qu'ils font des emprunts
À la cuisine étrangère, oui, pour en faire des produits chinois. Par exemple, nous dégusterons des nems au foie gras. Et c'est cette idée qu'il est en train de se passer quelque chose en Chine qui est un tournant essentiel, qui clôt 150 ans et qui va. Et qu'il est important de comprendre. Est-ce que ce tournant se manifeste d'abord au niveau de la haute gastronomie et du luxe?
Alors, donc, ce voyage se déroulera du 26 mai au 2 juin et dépêchez-vous, il vous reste 10 jours pour vous inscrire sur www.maisondelachine.fr.
Qu'est-ce qu'elle vous fait comme pub, dis donc, Marie,
hein. C'est vraiment sympa.
Ding, ding, ding.
Et bien voilà, on a fini cette émission. Une dernière parole, il vous reste 20 secondes. Est-ce que vous voulez nous dire une dernière chose, Cyril Javary?
Bien, il y a une phrase du grand commentaire du Yiqing qui ouvre et qui résume toute la pensée chinoise. Yin yang zhe wei tao, ce qui veut dire un coup yin, un coup yang, c'est comme ça que tout fonctionne. Nous terminons la partie yang par le silence.
Vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine et la réécouter pendant un mois sur notre site internet franceculture.fr. La semaine prochaine, je recevrai Marguerite Cardoz pour parler des dialogues avec l'ange. Tout de suite, vous retrouvez le journal de 8h. Très bon dimanche à tous.